Journée à vous.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
La Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. On va évidemment parler de la Côte d'Ivoire, de l'élection présidentielle du 31 octobre et surtout de cet appel lancé hier par Henri Colombédier et Pascal Affine-Guessant, un appel au boycott actif du processus électoral, des réactions sur la situation sécuritaire au Mali après la double attaque cette semaine dans le centre du pays. On parlera de la République démocratique du Congo avec plusieurs sujets qui nous arrivent. La situation à Minembwe, la reprise des cours, les bras de fer au sein de la coalition. Bon, on n'aura pas le temps de parler de tous ces sujets concernant la RDC. On en choisira un, évidemment, tout à l'heure. Et puis, vous êtes alors encore très, très nombreux, évidemment, à souhaiter réagir à la présidentielle de dimanche en Guinée. Ce sont les dernières heures de la campagne électorale en Guinée. Nous avons beaucoup d'appels. Nous avons notamment Emmanuel qui est avec nous. Bonjour, Emmanuel.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes à Conakry, dans la capitale. Dans quel état d'esprit êtes-vous à deux jours du scrutin? Parce que vous disiez au Standard, la campagne s'est passée dans des conditions déplorables.
Oui, on peut le dire ainsi. Vous savez, la candidature de M. Seydou d'Alain Diallo, qui était inattendue, a créé une situation nouvelle sur le plan politique. Le RPG, qui pensait être seul sur la liste, avec des adversaires qui étaient moins connus sur la scène politique, donc bouleverse les données. Donc, à cet effet, nous assistons à une campagne plus ou moins cadencée, plus ou moins violente, avec...
Mais Emmanuel, excusez-moi Emmanuel, c'est quand même une bonne chose ou pas que le principal opposant décide finalement de se lancer dans la course?
Oui, nous, moi, j'ai appelé ça un coup de maître politique, parce que si l'UFDG n'était pas venu à la liste, c'est qu'on aurait laissé la voie libre au parti au pouvoir d'avoir ce troisième mandat tant plusieurs fois décrié. Mais ce que nous souhaitons, nous voulons avoir une campagne apaisée. On ne peut pas comprendre dans un État, dans une république organisée, que des citoyens puissent manifester, puissent faire la campagne pour leur leader et qu'on en interdise à d'autres dans d'autres localités de la même république.
Vous faites référence, j'imagine, à ce qui s'est passé dimanche. Seydou d'Alain Diallo, donc principal opposant, empêché d'une certaine façon d'aller à Cancan pour un meeting, puisque son cortège a été bloqué à une centaine de kilomètres de cette ville par des militants du président sortant.
Absolument. Et ce n'est pas seulement à Cancan. Dans certaines régions aussi de la Guinée forestière, nous sommes en train d'apprendre que on interdit à des partis politiques de faire campagne. Ce qui n'est pas logique. On dirait que à certains partis de notre pays, l'État est absent. Dans d'autres côtés, l'État aussi. L'État existe. Pourquoi les gendarmes, les policiers sont là, inoffensifs, ils ne disent rien pour certains militants qui manifestent et pour d'autres, ils interdisent. Ils ne font pas usage des missions qui sont les leurs.
En tout cas, vous irez voter dimanche, Emmanuel. Je vous pose la question, puisqu'on sait que le FNDC, le Front National de la Défense de la Constitution, appelle toujours à l'heure actuelle au boycott du scrutin.
Moi, je pense que, vu la situation actuelle de notre pays, vu les conditions de vie dans lesquelles nous vivons, je crois que j'appelle tous les citoyens à aller voter. C'est par le vote qu'on peut apporter le changement. Mmh. C'est par le vote qu'on peut obtenir l'alternance en République de Guinée.
Emmanuel,
moi, je pense que cela est capital.
Emmanuel, restez en ligne. Je vous présente Fofana. Il est également à Conakry. Bonjour Fofana.
Ouais, bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs.
Dans quel état d'esprit êtes-vous à deux jours du scrutin présidentiel?
Je me sens très très bien et je pense que M. Emmanuel, il se trompe par rapport au sujet de la légitimité de cette élection, parce que aujourd'hui, nous, en tant que mouvance, nous sommes très heureux de voir cette candidature de UFDG qui vient encore rajouter cette crédibilité en quelques termes sur cette élection. Et aujourd'hui,
donc quand vous dites parti... nous, mouvance, j'essaye de décrypter un peu vos propos, hein, pour tous ceux qui nous écoutent. Vous, mouvance, donc vous êtes, pour dire les choses clairement, donc pro Alpha Condé. Quand vous parlez de candidature, vous faites référence donc à la candidature à un troisième mandat, ce qui est quand même très controversé sur place.
Même si c'est controversé, mais là, n'en est pas question avec cette identité de nouvelle constitution, nous sommes à un nouveau régime. Donc, nous ne parlons pas de troisième mandat, mais plutôt de premier mandat de la quatrième république.
Oui. Alors, bon, on va pas refaire le débat sur la révision constitutionnelle, troisième mandat ou pas d'Alpha Condé. Il est candidat au même titre que 11 autres personnalités politiques. On parle beaucoup de Sellou d'Alain Diallo. Certes, il est le principal opposant, mais à côté de Sellou d'Alain Diallo, il y a encore 10 autres personnes qui briguent la magistrature suprême. Cette campagne électorale, Fofana, en quelques mots, est-ce que vous l'avez trouvée trop mouvementée ou en tout cas trop tendue?
Non, pas du tout tendue. Peut-être les partisans de l'IFBZ qui semblent être un peu, sortis de la garenne politique. Nous, nous sommes très tendus. Nous savons que nous allons gagner cette élection avec une victoire écrasante.
Ah bon?
Nous avons les chiffres en main. Parce que
Attendez, Fofana, vous avez les chiffres en main. Vous savez comment ça peut être interprété? Avoir les chiffres en main, c'est-à-dire que vous avez déjà les chiffres avant même que la population ait voté?
Parce que vous vous souviendrez que lors du résultat du référendum, on a eu 91% de qui ont répondu oui, avec un taux de participation de 61%. Et donc, c'est fini. Et tous ceux qui ont voté.
Donc, pour vous, Fofana, vous êtes convaincu, victoire incontestable d'Alpha Condé, irez-vous jusqu'à prédire un coup KO, donc une victoire dès le premier tour?
Dès le premier tour,
ah oui.
On va écraser, puis voilà, les mouches, ça va partir.
Bon, les mouches, avec du respect quand même pour l'opposition, Fofana. Emmanuel?
Non, mais je crois que les propos de mon concitoyen ne sont pas des propos qui inaugurent des lendemains meilleurs. Si déjà on n'est pas allé aux élections et qu'on nous prévisage avoir déjà la clé de la victoire à la main, cela, pour nous, nous inquiète. Moi, je ne suis pas militant d'un parti politique. Je suis un citoyen qui pense que seules les urnes et les urnes peuvent nous permettre d'avoir de l'alternance et des élections à peser. Si les résultats des urnes ne sont pas respectés, si la CENI ne fait pas plus d'efforts à donner les résultats que les citoyens, à travers les urnes, ont mis par leur bulletin, soyez sûrs que nous n'aurons pas de lendemain meilleur.
Bon, Emmanuel, le débat est clos pour ce matin et pour cette campagne électorale qui se termine dans quelques heures. On aura évidemment l'occasion la semaine prochaine de vous redonner la parole sur l'antenne de RFI concernant ce scrutin présidentiel très attendu, évidemment sur place. Autre sujet qui suscite beaucoup de réactions au standard, c'est la Côte d'Ivoire, avec ce scrutin présidentiel qui est prévu le 31 octobre, dans 15 jours exactement. Et vous êtes nombreux à avoir entendu hier l'appel lancé par les opposants Henri Conan-Bédié et Pascal Affine-Guessant, deux opposants qui appellent leurs militants, leurs sympathisants, au boycott actif de la campagne électorale par tous les moyens légaux. Je les cite, par tous les moyens légaux. Mamourou, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue Mamourou. Avez-vous été surpris par cet appel? Qu'en avez-vous pensé?
Non, l'appel des opposants Henri Conan-Bédié et Affine Guessant ne m'étonne guère. Cependant, je reste serein, convaincu que les élections auront lieu le 31 octobre. La campagne est déjà lancée. Le président Alassane Ouattara a pour lui son bilan, ce qui fait peur à ses opposants. Ni Henri Conan-Bédié ni Pascal Affine-Guessant ne sont des personnes violentes. Ils ont lancé un mot d'ordre, ils sont dans leur rôle, mais les élections le 31 octobre auront lieu parce qu'il y aura plus de problèmes en Côte d'Ivoire s'il n'y a pas d'élection le 31 octobre.
Oui. En même temps, excusez-moi, vous dites qu'elles auront lieu, Mamourou, peut-être, je n'ai pas la boule de cristal. En même temps, ces deux opposants qui ont pris la parole hier, même si seul Pascal Affine-Guessant s'est exprimé en conférence de presse, il laisse encore planer le doute sur un boycott du scrutin.
Oui, le boycott signifie que probablement ni Henri Conan-Bédié ni Pascal Affine-Guessant n'iront aux élections. Ce qu'ils n'ont pas dit clairement, ils n'ont pas dit qu'ils retiraient leur candidature.
Effectivement.
Mais la majorité des Ivoiriens sont pour les élections. Nous voulons les élections parce qu'après le 31 octobre, le pays a besoin de tourner. Nous sommes dans une ascension positive sur le plan économique. Il y a une paix sociale. Les hommes politiques ont leurs querelles, mais ce sont des querelles qui peuvent trouver solution autour d'une table.
Oui.
Mais cette solution, on ne doit pas forcément la trouver avant le 31 octobre.
Donc, pas question, à vous entendre, Mamourou, à vous entendre, pas question donc de dissoudre la commission électorale avant l'élection présidentielle, ni de dissoudre le Conseil constitutionnel, ni de revoir la liste électorale. Ce sont toutes les revendications de l'opposition.
Absolument pas. À deux semaines des élections, ce n'est pas du tout possible.
Oui, enfin, ça fait pas deux semaines que l'opposition réclame tous ces changements et toutes ces modifications. Ça fait quand même déjà plusieurs semaines. Restez en ligne, Mamourou. Amara est également avec nous sur cette question et cet appel au boycott actif. Bonjour Amara.
Bonjour Juan. Bonjour RFI. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Nous vous écoutons.
Ben alors, j'écoutais tout à l'heure mon concitoyen Mamourou. Ben je pense que le président Bédié et le premier ministre Afinguessan n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de décider du boycott actif. Voici des gens qui se réclament de l'oufouettisme. Quelle était l'âme de Rufo Banyé? C'était le dialogue. Il disait d'ailleurs même que le dialogue est l'arme des forts et non de celui des faibles. On demande le dialogue pour la recomposition de la CEI et le Conseil constitutionnel. On nous dit non, allons aux élections dans les conditions que nous avons édictées et c'est dans ces conditions-là que nous aurons au vote le 31 octobre 2020.
Bon, visiblement, pour l'instant, il n'y a pas une volonté de remettre à plat la commission électorale avant le scrutin présidentiel. Ça veut dire quoi, Amara? Vous-même, vous vous préparez psychologiquement à boycotter le scrutin?
Tout à fait. Tout à fait. On va suivre le mot d'ordre du Premier ministre Afinguessan, du président Bédié. On va le suivre.
Ben, pour l'instant, ils ne sont pas. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'il fallait boycotter le scrutin présidentiel en tant que tel. Sinon, à quoi bon se présenter? Pour l'instant, leur candidature est maintenue.
Tout à fait.
Donc, vous n'irez pas. Donc, en attendant, vous n'irez pas retirer votre carte d'électeur?
Pas du tout. Le but, c'est d'empêcher que les élections aient lieu dans ces conditions-là. Vous donnez un blanc-seing au président Alassane Ouattara, vous dites qu'il a été élu.
Enfin, il y aura quand même, si jamais Henri Colombédier et Pascal Afinguessan se retirent, il y aura quand même un autre candidat face au président sortant.
À la demande du président sortant lui-même.
Bah, ça, c'est
il
votre...
a choisi Kakabé parce qu'il a
votre...
choisi...
C'est votre interprétation.
Il peut battre facilement. Kakabé n'a même pas de parti politique. C'est lui qui a réuni tous les parrains. Là où Mamadou Koulibaly, Mabri Touaké, ses hôtes ont échoué. Là où Amontano et autres ont échoué. Vous voyez, c'est du dol depuis le début. C'est du dol depuis le vote de cette constitution. Nous sommes dans cette logique-là.
Ah oui, mais enfin, qui a voté la Constitution? Qui a voté la Constitution? Qui l'a approuvée?
Oui, on a voté cette Constitution.
Ce sont les Ivoiriens, ce sont les électeurs.
Moi-même, j'ai voté cette Constitution. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous a dit clairement que, avec cette Constitution, Alassane Ouattara ne serait pas candidat en 2020. Donc, ils ont utilisé des manœuvres dolosives pour nous faire voter cette constitution.
Ouais, enfin, en même temps, on va pas refaire l'histoire, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans un premier temps, Alassane Ouattara n'était pas du tout candidat à la présidentielle, puisque le RHDP avait désigné une autre personnalité. Il s'est passé ce qui s'est passé, le décès du candidat. Là aussi, on aura l'occasion, la semaine prochaine et dans les 15 prochains jours, de vous redonner la parole concernant la campagne électorale en Côte d'Ivoire, les revendications des uns et des autres. Et on suivra tout ça, évidemment, avec nos correspondants sur place. Il est 10h53, le temps passe vite, il y a encore plein de sujets à aborder ce matin. Allez, parlons maintenant des propos que vous avez certainement entendus ce matin sur l'antenne de RFI et de France 24, les propos du président burkinabé. Pour la première fois depuis son élection il y a 5 ans, Rochmar Christian Kabore a évoqué le retour au pays de Blaise Compaoré. Si je suis réélu le mois prochain, dans le premier semestre 2021, tout le monde pourra rentrer tranquillement au Burkina Faso. Bonjour Daouda.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Vous nous avez contacté, vous souhaitiez prendre la parole justement sur les propos du président burkinabé.
Oui, bon, je voudrais dire simplement que ce n'est pas son excellence le président du Faso qui décrète qui doit venir ou qui ne doit pas venir. Parce que tous ces exilés sont debout, ils ne sont pas déchus de leur nationalité. Donc ce n'est pas, leur retour n'est pas lié à la réélection ou pas de son excellence monsieur le président du Faso. Ils peuvent venir quand ils veulent, donc moi je ne vois même pas de polémique là-dedans. Maintenant, à dire que s'il n'est pas réélu, ces gens n'auront pas le droit de revenir. Moi je n'ai pas compris exactement le sens exact de son propos. Du reste, pendant 5 ans, il n'a pas pu les faire revenir. Pourquoi doit-il attendre son deuxième mandat pour le faire?
D'autant que l'ex-président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par la population en 2014, on s'en souvient, l'ex-président avait écrit au président Kaboré il y a un peu plus d'un an, lui disant être disponible pour soutenir le pays dans la promotion de la paix, dans la cohésion sociale. Il n'y a pas eu de réponse à ce moment-là du président Kaboré.
Monsieur Rouen Gomez, je donne parfaitement raison à son excellence, monsieur le président du FASO, parce qu'il y a 25 millions de Burkinabés qui vivent sur le sol burkinabé. Ils n'ont pas demandé à écrire au président du FASO pour apporter leur expertise sur son pays.
Si peut faire
quelque chose pour nous, oui.
En deux mots, si l'ex-président revient au pays, il devra rendre des comptes aux Burkinabés et rendre des comptes devant la justice.
S'il revient au pays, c'est lui et la justice. Si la justice décide qu'il va à son Yaoundé natal là-bas pour cuver sa retraite, ou alors si la justice dit qu'il faut qu'il vienne répondre, il viendra répondre comme n'importe quel citoyen. Ensuite, lorsqu'il dit que lui peut nous aider à lutter contre le terrorisme, il va prendre la tête de l'état-major général des armées, ou bien il va aller au front avec une troupe armée, ou bien c'est pour ramener les terroristes encore à Ouaga 2000 et les donner le gîte et le couvert.
Bon, on va pas relancer le débat là-dessus, mais vous aurez l'occasion de le prolonger, en tout cas, la semaine prochaine. Ce sera le sujet de lundi matin, puisqu'on voit bien que ces propos tenus sur RFI suscitent des réactions, ne laissent pas indifférents nos auditeurs burkinabés. Merci infiniment, Daouda, 33 9 693 693 70. Bonjour Yvan.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Lagos, au Nigeria, et vous réagissez, vous, à la mobilisation de la jeunesse nigériane contre les violences policières dont elle est victime. Pas un jour ne passe sans que la brigade de répression des viols soit accusée d'atteinte aux droits de l'homme. Et vous êtes, vous, agréablement surpris par cette mobilisation de la jeunesse nigériane, puisque vous-même, vous n'êtes pas nigérian, vous êtes béninois, d'après mes informations, c'est bien ça ? Vous vivez à Lagos.
Oui, absolument.
Et du coup, voilà, cette contestation massive et vive dans les rues de Lagos, c'est plutôt une bonne chose, dites-vous.
Ah oui, franchement, c'est une très très bonne chose ce qui se passe actuellement ici à Lagos et un peu partout dans le pays. Parce que l'unité appelée SARS ici, qui est censée arrêter les voyous, les gens qui commettent autres actes d'abjection, sont par exemple en fait, disons, des jeunes qui commettent des vols et autres. Et donc cette unité utilise maintenant, depuis longtemps, utilise les méthodes plutôt des voyous. Alors, elle arrête donc les gens de manière arbitraire, détiennent les gens sans le respect des droits de l'homme, sans le respect des droits fondamentaux des gens. Il faut dire que plusieurs jeunes ont perdu la vie dans des arrestations, ils ont été tués. Oui. Mais
Et puis il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit justement les policiers de cette brigade maltraiter la jeunesse, voire même selon certaines images, on voit des agents présumés de cette brigade commettre des meurtres dans le sud du pays. La brigade a été dissoute il y a quelques jours. Le président Boiry a même pris la parole pour dire on va réformer la police. Vous y croyez, vous, Yvan ? C'est possible de réformer la police au Nigeria quand on voit que ce n'est pas la première fois que de telles promesses sont annoncées par les autorités ?
Disons que la plupart des gens ne croient pas à cette réforme ou bien ne croient pas véritablement aux promesses. Non, parce qu'aujourd'hui, les contestations sont encore plus vives parce que la police continue toujours de brutaliser les manifestants. Mmh. Voyez-vous ? L'unité a été dissoute, mais les violences policières continuent toujours. Donc si aujourd'hui les gens manifestent, c'est parce qu'ils veulent beaucoup plus de réformes, mais franchement les gens ne croient pas aux promesses du gouvernement, aux promesses des autorités qui disent qu'ils veulent réformer. Mais cette réforme, on ne sait pas trop avec qui, avec les unités, avec les mêmes personnes qui été accusées de brutalité policière, ou bien ça va être totalement une nouvelle équipe.
Oui, on verra ça. En tout cas,
qui se pose. Donc les gens ne sont pas vraiment convaincus des réformes annoncées.
Bon, merci beaucoup Yvan de ce témoignage. Bonne journée à vous. J'avais envie qu'on parle ce matin de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. On avait et on l'a encore en ligne, Jean-Pierre, qui a été enseignant, qui est aujourd'hui inspecteur académique, et il voulait témoigner de cette première semaine, reprise des cours pour des millions d'élèves. Jean-Pierre, vous inquiétez pas, on fait le maximum, la semaine prochaine, on vous rappelle pour la libre antenne, on pouvait aussi parler de ce deuil national de 3